Quand on parle de la vie chrétienne, des fois on parle de sacrifice. Et quand on parle de la vie en général, même ceux qui ne sont pas appelés dans le monde, on a ce mot, cette expression de faire des sacrifices les uns pour les autres. Donc le monde en général comprend l'idée de se sacrifier ou de faire un sacrifice, de donner quelqu'un, quelque chose, et de manquer quelque chose afin d'accomplir un but, afin de servir quelqu'un d'autre. Donc, on peut même parler de sacrifice de soi, un sacrifice personnel, quelque chose qui demande personnellement une perte lorsqu'on va accomplir quelque chose. Mais quelle est l'origine? Quelle est vraiment la leçon spirituelle pour nous qui sommes dans l'Église de Dieu, qui sommes appelés? Quelle est notre compréhension du sacrifice et des sacrifices que Dieu demande de nous? Considérons Romains, chapitre 12, pour commencer aujourd'hui. Cette célèbre exhortation de l'apôtre Paul a été écrite il y a près de 2000 ans, mais elle nous instruit et elle nous inspire à l'action, je peux dire, aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui nous pousse à l'action, qui nous inspire, et c'est, pour vous dire ça de côté, c'est l'un de mes versets préférés ou favoris de la Bible. Donc, Romains chapitre 12 aujourd'hui, cette inspiration de l'apôtre Paul qui nous aide à recadrer la vie, qui nous aide à mettre vraiment la perspective sur notre service et sur notre engagement envers Dieu, envers son peuple, envers l'Église, envers nos frères et sœurs. C'est vraiment intéressant que Paul prend le temps. Vous savez que dans Romains, il est en train de s'adresser aux Juifs et aux païens en même temps. Donc, il y a dans un sens une Église un peu divisée en deux. Et ce qu'il fait pendant 11 chapitres, c'est expliquer que chacun fait partie de cette Église de Dieu. L'Église n'appartient pas aux Juifs. Et l'Église n'appartient pas aux païens, mais que tout le monde est soumis à la loi de Dieu, tout le monde est censé d'intégrer dans l'Église. Mais il prend un élan différent dans Romains 12 pour dire des choses au lieu de parler de juifs ou de grecs ou de juifs ou de païens, il parle à nous tous. Donc il s'adresse à nous tous ici, parce que dans son message ici, dans un message des Romains, c'est sûr qu'il y a beaucoup de théologie, beaucoup de choses théologiquement intéressantes à étudier. Mais ce verset ici, c'est comme une instruction qui est doctrinale, mais qui présente une exhortation très encourageante pour la vie chrétienne. Donc, on commence avec le verset 12, excusez-moi, le verset 1 au chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Tellement de richesse dans ce petit verset, n'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, lorsque l'apôtre dit ici, « Je vous exhorte donc », on sait déjà que c'est une exhortation, c'est la base, c'est la définition d'une exhortation ici. Mais il ajoute le mot, hein, « frère ». Il ajoute le mot « frère ». Mais quand il va nous exhorter, en fait, il est debout, il reste sur l'autorité de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il fait quand même attention à ce qui va suivre. Il utilise la même expression dans sa lettre soigneusement écrite à Philémon aussi. Il explique dans Philémon que c'est par amour qu'il fait appel ou il supplée Philémon. Mais en fin de compte, Paul nous démontre que ses paroles sont fondées sur son amour et son intérêt personnel pour ses frères, les Romains. Donc, lorsque Paul dit le mot « donc », on sait déjà, quand on fait l'étude biblique, « donc », c'est quand même un point tournant, c'est quand même un point pour dire, voilà, attention, tout ce qui a été dit avant ou écrit avant, ça pèse sur ce que je vais vous annoncer. Donc, si Paul a passé 11 chapitres de sa lettre, de son épître, pour expliquer l'unité de l'Église, alors cette exhortation est basée sur l'unité de l'Église, sur le fait que tout le monde dépend de la loi de Dieu, des instructions divines et l'Esprit. Donc, maintenant, il nous adresse tous comme frères. Certainement, Paul est apôtre, mais il n'avait jamais visité Rome. Il n'est jamais allé à Rome quand il a écrit cette épître. Donc, cette lettre était en quelque sorte une première impression de l'apôtre avant d'arriver quelque part pour la première fois. Dans le passé, on n'avait pas Google, on n'avait pas la possibilité de télécharger une vidéo sermon de quelqu'un qui allait venir sur place. Donc, c'est peut-être de bouche à l'oreille ou même par des épîtres comme celui-ci que quelqu'un allait s'adresser au groupe et puis après, ils vont se connaître avant de vraiment se rencontrer. Donc, c'est quand même une première impression qui devait ouvrir la voie sur une arrivée ultérieure. Donc, malheureusement, lorsque Paul a finalement eu l'occasion de se rendre à Rome, comme vous le savez, il est allé comme prisonnier, n'est-ce pas, en tant que prisonnier. Donc, pourquoi Paul utiliserait-il le mot « frère » pour ces personnes qu'il ne connaît pas? Pourquoi se servir de ce mot vraiment intime, le mot « frère » Le mot « frère » n'est-il pas familier? Oui, c'est familier, mais en utilisant ce mot, l'apôtre donnait un excellent exemple de la manière dont nous devrions considérer les autres membres de l'Église de Dieu dans le monde entier. Nos frères qui sont unis avec nous par la foi, n'est-ce pas? Donc, Paul, ici, s'adresse aux frères, et ça implique, en fait, cette liaison, cette relation personnelle implique Paul dans son instruction aussi. Parce que si on a un frère qui s'adresse à un autre frère, c'est pas simplement pour t'instruire, mais pour t'informer de quelque chose qu'il a déjà mis en pratique chez lui. Donc, nous ne devons pas non plus négliger le fait que à cette époque, comme je vous ai mentionné, les Juifs et les païens s'habituaient à l'idée d'être frère. Donc, même de se servir de ce mot frère. Est-ce que c'est mon frère? Je pouvais pas manger avec des païens il y a quelques années. Maintenant, je suis censé de manger avec des païens autour de la même table. Est-ce que je suis capable de faire ça? Donc, c'est l'idée d'être frère, ça change de perspective. Est-ce que cela résonne avec nous? En fait, dans Romains chapitre 11, Paul aborde la question en rappelant à la région de Rome, qui est majoritaire païenne, et il a dit « Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il avait connu d'avance ». Et puis ici, en Romains chapitre 12, Paul met en point d'honneur à s'adresser à tous ceux qui lient cette épître en tant que frère. Donc, il n'ignore pas la différence entre les frères, mais il souligne le fait qu'ils sont censés de se considérer comme frères. Paul rappelle de les innombrables exemples dans nos vies et dans la Bible de Dieu qui fait preuve de miséricorde envers son peuple. C'est une façon de faire miséricorde envers quelqu'un, c'est de se considérer frère. Il laisse entendre que la miséricorde de Dieu doit nous inspirer, nous toucher au cœur et nous impressionner. Donc, ceci devrait être l'impulsion ou la motivation derrière ce qui est le point à suivre. Donc, le point est, qu'il va faire de suite ici, son objectif va se présenter ici. Donc, quel est son objectif? Quelle est son exhortation? J'ai déjà défini le contexte, le cadre de cette expression, de cette exhortation. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous demander en tant que frère? Oh, d'accord. C'est par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, quand même, nous voyons ici, au cœur du sujet, cette idée, c'est de présenter nos corps en sacrifice vivant. Paul s'engage sur un plan très personnel en parlant de notre corps. Il attire notre attention en soulignant la seule chose que nous possédons tous. Chacun de nous, on a un corps, n'est-ce pas? On a un corps. Donc on peut, si on est juif ou païen, petit ou grand, riche ou pauvre, nous avons un corps. Nous avons un être. Nous sommes une personne. Donc c'est quelque chose qui nous unit tous. Et puis l'idée ici de ce nouveau concept, si vous voulez, c'est de nous demander de présenter nos membres comme des instruments de justice ou des sacrifices. C'est la même chose qu'il a mentionné plus tôt dans le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Il a mentionné des instruments de justice. Donc maintenant, ce qu'il est en train de nous demander, c'est de présenter nos corps comme un sacrifice vivant. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions de près cette idée, ce concept de se présenter ou de présenter nos corps en sacrifice vivant. Que signifie réellement cette exhortation? Comment nos corps peuvent-ils être sains et acceptables pour Dieu? Et pourquoi ce principe est-il si important pour les chrétiens d'aujourd'hui? Notre compréhension personnelle de cette exhortation dictera notre capacité à mettre ces choses en pratique, n'est-ce pas? Notre réponse devrait changer peut-être radicalement notre façon de vivre et notre façon de servir Dieu et nos frères. Donc, qu'est-ce qu'un sacrifice vivant en réalité? Pour comprendre cette idée, on doit se situer dans le contexte de sacrifice juif, n'est-ce pas? Le système lévitique avait un système de sacrifice. Donc, nous devons quand même examiner la signification de ce que c'est un sacrifice et ce qui se passe quand un sacrifice est présenté envers Dieu. Donc, examinons ça en se reportant à Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 1. Nous savons que sous le sacerdoce lévitique, les sacrifices étaient offerts à Dieu par les prêtres sur l'autel, n'est-ce pas? Le mot hébreu utilisé dans le Pentateuque pour décrire les sacrifices, également appelé offrande, est le mot corban ou corbin. D'après la signification de sa racine, ce mot signifie quelque chose que l'on approche de l'autel. Tout ce qui est corban est quelque chose qu'on approche à l'autel. On l'apporte à l'autel pour, bien sûr, pour le déposer, pour que ça soit donné à Dieu. Donc, je pense que ça serait intéressant de considérer chapitre 1 du livre de Lévitique pour voir certaines instructions générales concernant la présentation des offrandes ou les sacrifices. Parce que ceci va changer notre perspective sur comment se présenter comme sacrifice vivant. C'est quand même basé dans la compréhension de ce que c'est un sacrifice. On ne peut pas simplement adopter le contexte moderne du monde pour dire « je comprends ce que c'est un sacrifice », parce que la définition peut-être de moderne est peut-être influencée plus par le temps et par l'usage et par l'influence de la compréhension mondiale, humaine, et non pas certainement basée comme d'autres choses sur les concepts bibliques. Donc, bien sûr, on a des idées, des concepts bibliques, mais des fois, comme vous le savez, ils sont tordus, sont modifiés, sont usés, et n'ont plus le même sens quand on les entend aujourd'hui. Donc, pour revenir à la base, considérant le verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, corbin, n'est-ce pas, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Wow! Dans ces quelques versets, on a des idées, des thèmes très intéressants, très importants à souligner ici dans les premiers quelques versets, n'est-ce pas? Considérant de nouveau ce que nous venons de lire au verset 3. OK? Qu'est-ce qu'il est écrit que je voudrais souligner? C'est devant l'Éternel, d'accord? Ça nous rappelle dans la place où Dieu a mis son nom. Hein? On a dû parler de ça à la fête des tabernacles. C'est le lieu où l'Éternel placera son nom. Donc, il y a un lieu, il y a une présence physique de notre corps qui est nécessaire pour présenter ce sacrifice devant Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas dire « j'envoie ce sacrifice par UPS » ou par FedEx ou par Pure Letter. C'est pas possible. C'est pas la même chose ici, dans le sens littéral de ce sacrifice. Donc, on était censé se présenter devant l'Éternel, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que je voudrais souligner aussi, c'est que ce soit un gros bétail, un petit bétail, c'est traité pareil. C'est la signification est parallèle, est la même, parce que on a quand même, on n'a pas un dédaignement d'un petit sacrifice. Il ne faut pas dire que c'est juste un petit sacrifice, donc je peux ignorer tout le reste. Non. On doit valoriser les sacrifices de notre côté pour s'assurer qu'on les présente devant l'Éternel de la bonne façon. D'accord? Si nous ne faisons pas notre part en valorisant le sacrifice que nous allons porter devant l'Éternel, nous avons déjà raté le coup. Parce que si on présente un sacrifice devant l'Éternel, il faut qu'on comprenne exactement la signification de ce sacrifice. Et ça rentre dans les détails aussi avec la compréhension de ce que les autres présentent devant l'Éternel. Si je comprends pas la base, je pourrais risquer à dire, lui, il ne donne pas beaucoup. Ses sacrifices sont petits. Les miens sont grands. Moi, je suis mieux que lui. Je peux faire autre chose. Ou lui, il ne fait pas correctement parce que son sacrifice est tellement petit. Mais voyez-vous, on traite les deux de la même façon. On traite tous les sacrifices de la même façon. On n'est pas en train de juger entre les gros et les petits pour les traiter différemment. D'accord? Le gros bétail, le menu bétail. Donc on avait lu, n'est-ce pas, devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'il est juste après? Pourquoi? Pour obtenir sa faveur. Pour obtenir sa faveur. Ce n'est pas pour nous glorifier, nous. Ce n'est pas pour faire un rite religieux. C'est pour obtenir sa faveur. Je pense que ça résonne, frères et sœurs, dans le cœur de chacun de nous. C'est que nous sommes ici pour obtenir sa faveur. Nous faisons cette vie chrétienne pendant les temps de joyeux, de les temps joyeux et les temps difficiles, nous continuons à servir pour obtenir sa faveur. Donc, on a quand même quelques astuces très importantes au début de ce chapitre qui sont vraiment applicables au sujet d'aujourd'hui. Donc, nous examinons ces choses et nous voyons que le sacrifice est quelque chose à présenter devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Et que ce soit gros, que ce soit petit, ce n'est pas nous qui sommes censés de juger comment nous allons faire. Nous devons, nous sommes censés, de faire de notre mieux, dans un sens, pour nos sacrifices, pour les traiter de bonne façon. Donc, Dieu se sert de Moïse pour transmettre ses instructions aux enfants d'Israël. Si un homme était riche et pouvait permettre, il était censé d'apporter un taureau de son troupeau. Nous, même si nous considérons Luc chapitre 2 et le verset 27, je ne vais pas me reporter, mais Luc 2, 27, nous voyons que Joseph a offert une paire de tourterelles, n'est-ce pas? Une paire de tourterelles, c'est un sacrifice, une offrande pour des pauvres, d'accord? Ce sacrifice, cette offrande, c'est une offrande pour les pauvres. Mais il est également saint. Il est également pour obtenir la faveur de l'Éternel. Il est également apporté devant l'Éternel. C'est un sacrifice qui n'est pas avec deux cornes, mais un taureau. OK, on est tous sur la même page. Mais c'est quand même deux tourterelles. Très petit, très bas prix, d'olorama, d'accord? C'est quelque chose de petit, mais ça sert aux pauvres parce qu'ils sont capables de donner une offrande comme cela. D'accord? Et ce sont selon les Écritures. Contrairement au taureau, il s'agissait d'une offrande faite par les pauvres. Donc, dans l'ancien Israël, les animaux offerts en sacrifice étaient censés être sans défaut. Sans défaut. Il faisait partie des plus beaux animaux que possédait la personne. Je crois que c'est peut-être une sermonnette que j'ai entendue une fois qui a dit « on va présenter le meilleur de nos troupeaux, n'est-ce pas ?» Et donc, on est censé de présenter ce sacrifice sans défaut. On ne prend pas les « leftovers », on ne prend pas les restants. On donne de notre mieux. L'exigence d'être sans défaut était censée d'instruire que seul ce qu'il avait de mieux pouvait constituer une offrande acceptable pour Dieu. Donc, on était censé de donner le mieux. Et sans étudier ça, nous avons tous peut-être en tête Genèse 4, et l'histoire d'Abel et de Cain, et le fait que l'offrande de Cain n'a pas plu l'Éternel. Et toujours, des fois, on se demande, sans rentrer en contexte, sans comprendre le sacrifice, les systèmes de sacerdotal, des fois, les gens sont un peu dans la confusion, parce qu'ils disent, Cain, il a donné quelque chose, n'est-ce pas? Hein, il a donné quelque chose, mais... on n'est pas capable de comprendre pourquoi Dieu jugerait ce sacrifice inacceptable si nous n'avons pas compris ce que Dieu prescrit pour les sacrifices, d'accord? Donc, on comprend mieux avec une petite examination de la signification de ces versets. Continuons en verset 4. « Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. » Donc, nous sommes quand même ici avant le temple, n'est-ce pas? On est même avant le temple, donc on est dans une époque où on avait déjà un système dans la tente d'assignation pour accepter les offrandes et les sacrifices et pour faire le culte de ce qui va se passer dans le temple après. Donc, tout est capable, ils sont capables de le faire. Ils avaient suivi les instructions que nous pouvons lire dans la Bible, dans l'Exode. Mais ce que nous faisons ici, c'est on accepte l'offrande et c'est l'intermédiaire, c'est le prêtre ici qui l'accepte. C'est le prêtre, c'est les lévites, les prêtres, les fils d'Aaron en ce moment, qui vont prendre le relais. Et ceci était également très instructif. On pourrait passer tout un sermon sur la signification de ce sang. Et on pourrait comparer la signification de ce sang versé avec ce que nous avons appris dans Hébreu, qui nous apprend sur le sang versé de Jésus-Christ, qui est mieux que tout ce sang versé des taureaux et des boucs. Donc, on pourrait passer du temps là-dessus, mais ça fait des liens entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament qui sont très importants. Si vous connaissez le commentaire de Matthew Henry, ce commentaire déclare à propos de ce verset qu'en posant sa main sur la tête de l'offrande, la personne qui a offert ce sacrifice, la personne qui a amené ce sacrifice, allait signifier son désir et son espoir qu'elle soit acceptée. Maintenant, pourquoi? Parce que cette personne voulait que cette offrande ou ce sacrifice soit accepté de lui pour faire l'expiation pour lui. Donc, dans un sens plus détaillé, on a une substitution qui a lieu ici. On a quelqu'un qui aurait dû mourir et le sang de l'animal couvre son péché, d'accord? C'est la pénalité qui est enlevée à cause de cela. Donc, il précise également que bien que les holocaustes ne se rapportaient pas à un péché particulier, comme c'est le cas pour les sacrifices d'expiation, il devait faire l'expiation pour le péché en général. Et on peut faire le tri entre les différents types de sacrifices. Il y avait des sacrifices pour certains péchés, pour certains cas, et d'autres sacrifices d'expiation générale. Donc, le sang répandu autour de l'autel représente l'élément vivifiant de l'animal. L'élément qui donne vie à l'animal et non sur la personne. Car sinon, la peine pour le péché est la mort. Donc, on a une substitution qui a lieu ici. Maintenant, on va sauter quelques versets jusqu'au verset 9. Verset 9. « Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. » C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Bon, si l'apôtre Paul, dans Romains 12, est en train de nous dire de se sacrifier, je suis pas le premier d'être en ligne si c'est pour ça. D'accord? Comprenez bien. Je suis pas bien pour sauter sur le feu moi-même. Heureusement, il y a une signification spirituelle au propos de l'apôtre Paul. C'est un sacrifice vivant, n'est-ce pas? Ceux-ci, ce sont des sacrifices qui sont morts, okay? Qui ne sont plus vivants. Mais cet holocauste, c'est un sacrifice consumé par le feu. Je risque de spéculer, mais est-ce que nous sommes consumés par le feu de l'Éternel? Est-ce que nous sommes consumés dans un sens, est-ce que nous sommes zélés pour servir Dieu? Est-ce que nous acceptons que Dieu se sert de nous complètement, de notre vie? Parce que des fois, quand on prend un pas en avant pour servir Dieu, on n'a pas compris la fin de la chose. On risque de s'engager et d'aller plus loin, et d'aller plus loin. Est-ce que nous sommes prêts à continuer si Dieu voudrait mieux ou voudrait plus de nous? C'est l'idée. C'est l'idée d'être prêt à être consumé quand on se sacrifie à Dieu, d'accord? Pas par le feu, mais par la volonté de donner, la volonté de servir et les besoins qui sont tellement présents, n'est-ce pas? Dieu peut ouvrir nos yeux aux besoins autour de nous et ça nous attire davantage. Et ça, on ne peut pas relâcher, on ne peut pas arrêter. On est impliqué, on est engagé. Notre cœur est ouvert. On a une dédication, un engagement pour servir. Donc, si nous nous préparons pour servir de cette façon, de Romains 12, verset 1, préparons-nous à servir complètement. D'accord? Si Dieu demande plus, est-ce que nous sommes prêts à donner davantage? C'est ça la question. Donc, c'est très agréable, cette odeur à l'Éternel. Donc, on voit qu'enfin, quand le processus est bien fait, quand le processus suit les instructions, quand c'est sincère, quand les bonnes personnes sont impliquées, quand le sang est répandu, quand tout est accepté, alors l'Éternel a un grand plaisir. Et c'est la même chose avec nos vies, avec nos sacrifices pour servir Dieu aujourd'hui. C'est que quand ça se fait bien, quand nous suivons l'instruction et quand nous le faisons avec notre cœur, ça plaît à Dieu. Mais vous vous souvenez peut-être de certains passages en Ésaïe, peut-être, où Dieu n'aimait pas du tout les sacrifices. Il n'aimait pas du tout les lunes. Il n'aimait pas du tout même les sabbats. Parce que c'était fait avec de l'idolâtrie, avec des autres faux dieux, avec la mauvaise façon. Donc, on peut faire quelque chose, on peut faire un acte sans avoir suivi les instructions. Donc, les instructions ici sont claires pour donner un sacrifice à l'Éternel. Et c'est clair aussi qu'il prend plaisir quand on fait bien. Quelque chose à se souvenir, parce que ça, en fait, ça fait la boucle, n'est-ce pas? C'est fait la boucle, parce que tout au début, on avait dit qu'on fait cette offrande pour obtenir sa faveur. Donc, même avant de le faire, c'est une préparation. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais ce service? Pourquoi je fais ce sacrifice? Pourquoi je donne cette offrande? C'est pour plaire à Dieu, n'est-ce pas? Pour obtenir sa faveur. Et après, si on suit les instructions, on va réussir. Donc, nous avons quand même fait une petite parenthèse, si vous voulez, sur les sacrifices physiques qui avaient lieu dans l'ancien Israël. Nous pouvons maintenant mieux saisir à profondeur et la profondeur de l'instruction de Paul. L'apôtre Paul a délibérément évoqué ce concept d'un sacrifice physique lorsqu'il a introduit ce principe spirituel. Et, souvenez-vous, il parlait aux Juifs et aux païens, les deux. Donc, Paul était passé maître dans l'art d'utiliser le physique pour expliquer des principes et des concepts spirituels. Il était vraiment doué à faire ça. Il parlait aussi dans d'autres endroits de cette pâte, notre nouvelle pâte. Il parlait de levain et l'orgueil et toutes ces choses. Il se sert de, comme Jésus-Christ, il se sert du physique pour nous expliquer le spirituel. Et c'est bien l'objectif de Paul ici. Nous commençons à voir que la pleine signification de l'expression « sacrifice vivant » est constitué d'une composante physique et d'une composante spirituelle. Donc, dans Romains 12, Paul fait allusion à l'acte cérémoniel d'offrir un sacrifice comme ce dont il est question dans Lévitique chapitre 1, ce que nous venons de lire. Il renvoie au système sacrificiel lévitique pour montrer que ces normes physiques qui s'appliquaient au sacrifice physique sont comparables aux normes spirituelles qui s'appliquent à notre façon de vivre, de plaire à Dieu. Donc, je pense que nous avons bien compris qu'il y a une signification spirituelle, mais que pour bien comprendre cette fois, cette partie-là, il faut comprendre l'exigence de Dieu pour donner un sacrifice. Donc, comment nos corps, ce chair, nos corps peuvent-ils être sains et acceptables pour Dieu? Est-ce que nos corps sont capables de vraiment être sains? Chacun de nous, nous avons un corps vivant. En fin de compte, c'est à nous de choisir si nous voulons obéir à Dieu avec ce corps ou non. Des fois, on peut dire que ça commence à l'esprit, l'obéissance, et ça a un impact sur notre comportement corporel. Dieu permet cela afin que nous puissions faire de bons et de mauvais choix. Donc, on a la possibilité de se faire mal. On a le libre arbitre, d'accord? Il voudrait que nous fassions de bons choix, mais il nous laisse la liberté de faire des erreurs, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas programmés comme des robots. Et nous pouvons quand même choisir. Nous avons le libre arbitre, le choix de choisir ce que nous faisons, ce que nous faisons avec notre corps. Mais par contre, comme nous apprenons avec l'âge, nous n'avons pas le contrôle à 100% sur le corps, n'est-ce pas? Hein? On perd un peu le contrôle sur le corps. Des fois, quand on est jeune, on pense qu'on a maîtrisé le contrôle du corps et que ça, c'est quand même quelque chose que nous pouvons dominer dans un sens. Mais quand on prend un peu l'âge, on commence à avoir besoin de plus d'entretien. Ou peut-être il y a des pièces qui ne fonctionnent pas comme ils fonctionnaient auparavant. Je sais pas si je parle pour moi, mais pour ça peut arriver. Donc on a un corps que nous n'avons pas la maîtrise totalement sur la dégradation du corps, sur le fonctionnement. Si mon bras ne fonctionne pas demain matin, je peux pas dire à mon bras il faut que tu fonctionnes. Je peux pas dire ça. C'est hors de mon contrôle, n'est-ce pas? Si mon pied ne fonctionne plus, je peux pas parler avec mon pied pour le convaincre qu'il faut obéir à moi. Hein? On peut avoir quand même la physio, la thérapie, mais ce que je veux dire, c'est il y a des limites, n'est-ce pas, sur notre contrôle de ce corps. Et je pense que nous avons déjà compris tous que c'est fait en exprès. C'est fait exprès pour nous donner, si vous voulez, un domaine d'apprentissage. Parce que on apprend quand on est jeune. Si vous voyez un adolescent, cet adolescent grandit plus vite qu'il peut apprendre à contrôler son corps. Donc des fois, les adolescents sont un peu maladroits pour quelques années parce que ils ont des jambes et des muscles qui se développent et ils n'ont pas complètement le contrôle sur ces choses. Donc, ils vont être un petit peu awkward, un petit peu maladroits. Mais avec du temps, avec la maîtrise, certains athlètes sont capables de maîtriser leur corps et de faire des gros exploits avec le corps, n'est-ce pas? Donc, on a un certain champ de contrôle, mais ça demande de l'effort et ça demande aussi la réponse corporelle aussi, que notre corps répond à nos efforts. Donc, pour que ce corps physique soit un sacrifice vivant, il faut rester vivant, d'accord? On a tous compris ça, on n'est pas... on comprend, il faut être vivant, mais Paul dit que nous devons être à la fois saints et acceptables pour Dieu, n'est-ce pas? Reportons-nous de nouveau à Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. J'avais pas lu le verset entier. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah! Après avoir lu Lévitique chapitre 1, juste quelques versets, je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi Paul dirait un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sont exactement les mêmes instructions de ce système lévitique, n'est-ce pas? Et nous avons vu à deux reprises qu'il faut que ça plaise à Dieu, n'est-ce pas? Donc, acceptable pour Dieu, agréable à Dieu. Saint et agréable. J'ai dit acceptable, mais c'est agréable dans le bon français. Donc, le mot grec soma, ici, est traduit par le mot corps dans ce verset, le verset 1. Donc, nous avons le mot soma. C'est le mot grec soma. C'est une référence littérale à nos mains, nos pieds, notre bouche, nos yeux, nos oreilles, le corps humain. Ce n'est pas la personne entière, mais c'est le corps physique, le soma. Après, un autre aspect de la vie humaine, c'est la sana, anima. Donc nous avons ici une explication de Paul qui touche à quelque chose de littéral, quelque chose de physique. Nous pouvons choisir à servir Dieu avec nos mains, nous pouvons choisir à servir Dieu avec nos pieds, avec nos voix, même avec nos oreilles, nous pouvons servir Dieu avec notre bouche, avec notre corps entier. Et donc, il n'y a pas une partie de notre corps qui est censée d'être inacceptable ou pas agréable, désagréable à Dieu. Et c'est intéressant parce que nous sommes censés de traiter notre corps comme un temple pour l'Éternel, pour l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes censés de rester purs, de rester saints et de laisser vivre la vie de Jésus-Christ en nous par l'Esprit. Si nous sommes en train de maltraiter ce corps, ça peut empêcher notre façon, notre capacité de servir. Si nous abusons notre corps, si nous ne faisons pas l'entretien nécessaire comme l'exercice ou le bien manger, si nous n'avons pas assez de sommeil, si nous n'avons pas assez d'exercice, nous avons une dégradation dans notre façon de donner, n'est-ce pas? Nous n'avons pas, et comme je vous ai dit, des fois c'est hors de notre contrôle, mais la question c'est qu'est-ce qui est hors contrôle et qu'est-ce que je peux maîtriser? Pour chacun c'est différent, n'est-ce pas? C'est pas un jugement, mais c'est différent pour chacun d'entre nous. Il y en a qui sont vraiment pas capables de courir un marathon. Mais il y en a d'autres qui, s'ils avaient vraiment pris la décision de courir un marathon, ils pourraient le faire, mais pas demain. Ça prendrait de l'entraînement, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas jugé de ne pas pouvoir courir un marathon, parce que c'est pas pour tout le monde. Mais si on a la capacité de courir un marathon et ça ferait du bien pour l'Éternel, imaginons, est-ce que je ferais l'effort pour m'entraîner à courir un marathon ou pas? C'est ça un peu la décision. C'est ça le libre arbitre, n'est-ce pas? Mais c'est pas demandé dans la Bible que chacun apprenne à courir un marathon. Heureusement. Mais il y a d'autres choses qui sont demandées, qui sont exigées, n'est-ce pas? Et ça concerne notre corps, ça concerne notre corps, l'entretien et la maîtrise, et ça concerne notre esprit aussi. Intéressant que ce monde, les cultures et les sociétés de ce monde qui composent ce monde ne sont pas le produit fini de Dieu. Ce monde a été déjà brisé et impacté, maligné par un autre esprit. Dieu a donné à Satan, le diable, un temps pour influencer les pensées de l'humanité et même le monde entier, nous le savons, Apocalypse 12, verset 9. Nous savons donc que le monde en général est sous le contrôle de forces spirituelles exercées par Satan, le diable. Mais au contraire, nous avons été libérés de ce contrôle, n'est-ce pas? Donc, nous avons été libérés de cet emprisonnement, de cette emprise de Satan, pour pouvoir choisir la vérité, choisir à obéir à Dieu. Nous avons eu l'appel du Père et nous avons répondu. Mais le monde n'est pas capable de faire ça parce que le monde n'est pas appelé. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est que Satan impacte, Satan dégrade l'humanité dans ce siècle présent. Mais être saint signifie d'être mis à part de ce monde, de se séparer de ce monde. L'idée de sainteté, c'est d'être consacré à Dieu. Donc, on va consacrer nos membres à Dieu. On va consacrer du temps à Dieu. On va consacrer notre énergie à Dieu. On va consacrer nos enfants à Dieu. Ceci demande un choix délibéré et ceci peut demander aussi un investissement de temps, d'apprentissage et la façon d'apprendre. Considérons Jean chapitre 17, nous l'avons déjà lu il y a quelques mois maintenant, mais revenons à Jean 17, le verset 9, Jean 17 et le verset 9, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc Jésus-Christ lui-même fait une distinction entre le monde et ceux qui ont été donnés ou ceux qui appartiennent au Père. Il y a une différence. Jésus-Christ prie pour ceux qui appartiennent au Père. Il s'agit d'une forme de séparation, sainteté, de mise à part. Ce n'est pas parce que nous étions sages, ce n'est pas parce que nous étions forts que Dieu nous a appelés, mais selon son propre dessein. Nous devons continuer à vivre dans le monde, mais à rester saints, à rester séparés, à ne pas inviter le monde à envahir notre vie et à envahir notre esprit et à nous influencer à faire sa volonté. On doit continuellement se soumettre à la volonté de Dieu et non pas du monde. Donc, c'est très important pour comprendre notre investissement, si vous voulez. Donc, nous sommes agréables à Dieu, nous avons déjà mentionné ça, et nous pouvons être des sacrifices acceptables ou agréables à Dieu grâce au sang versé de Jésus-Christ. Il faut comprendre que si Jésus-Christ n'avait pas pris le choix, n'avait pas choisi de se débarrasser de sa gloire et de venir dans la forme d'un homme pour vivre et pour mourir à notre place, nous n'aurions pas accès à cette vie avec l'Esprit de Dieu en nous. Donc, par Jésus-Christ, nous pouvons être acceptables ou acceptés ou agréables à Dieu. C'est ce processus qui fait que notre sacrifice soit acceptable à Dieu ou agréable à Dieu. Mais de notre côté, nous avons quand même la responsabilité d'empêcher ou de garder le péché hors de notre vie et de prier continuellement pour l'inspiration de Dieu qui nous aide à identifier le péché, la tentation, les choses qui nous trompent et qui nous donne du discernement pour distinguer le bien du mal, les tromperies, les ruses du diable que nous avons mentionnées récemment. Le psaume 19. Considérons le psaume 19. J'ai juste un extrait ici, un passage du psaume 19, verset 13. Psaume 19 et le verset 13. Nous pouvons garder notre place en Romains. Psaume 19, Et commençant avec le verset 12, c'est un peu décalé. Mais verset 12, psaume 19, verset 12, nous avons ici « Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Donc c'est ça, je cherche, c'est ce que David cherchait, il cherchait d'être lui-même agréable à Dieu. Il cherchait, même au verset 15, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche. » Il cherchait que ses paroles soient favorables, soient agréables à Dieu. Et les sentiments de mon cœur. « Ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur. » Il ne voulait pas qu'il y ait une différence entre les paroles et les sentiments de son cœur. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de l'hypocrisie. Il ne voulait pas être hypocrite, de dire des choses qui allaient au contraire de son cœur. Donc, s'il y avait un écart entre les deux, où est-ce qu'on va corriger ça? Souvent, on doit corriger le cœur, n'est-ce pas? Parce qu'on peut dire de belles choses sans y vraiment croire, sans y vraiment sentir à l'intérieur. Il est facile à dire des mots. Mais ce que nous ressentons ici ne devrait pas en décalage de notre parole. Et c'est ça que David cherchait. Il cherchait qu'il soit lui-même agréable à Dieu. Il cherchait à enlever le péché, à enlever la condamnation qui serait le résultat d'une vie pécheresse. Et il voulait être réconcilié avec Dieu. Donc, nous sommes au courant que c'est Christ l'ultime sacrifice. L'ultime sacrifice. Et nous sommes maintenant, nous avons accès à ce sacrifice et ses bienfaits. Donc, maintenant, je vous ai mentionné Hébreux auparavant. Hébreux chapitre 9, maintenant. On va parler quelques moments ici, du sacrifice de Christ dans le contexte d'être agréable à Dieu. D'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 et le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Si vous vous souvenez, nous avons déjà mentionné dans Lévitique chapitre 1 ce qui se passe à la tente d'assignation. Il a traversé cet endroit, cette séparation entre l'homme et son Dieu, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, quand il s'agit du péché, nous n'avons pas la possibilité de simplement offrir notre sang versé propre de nous-mêmes. C'est pas notre sang versé qui enlève la pénalité de la mort. C'est le sang versé de Jésus-Christ qui nous donne accès à ce pardon essentiel pour la vie chrétienne. Et notons bien que nous avons même mentionné de nouveau le sang des taureaux et des boucs. Et la cendre aussi, hein? Le sacrifice brûlé sur l'autel. Donc, il a vécu une vie entièrement sans péché, sans tâche, il était sans tâche. En tant que fils de Dieu, il était le seul offrande acceptable dont le sang qui lui a donné la vie physique était suffisant pour payer tous les péchés de l'humanité. On doit souligner et on doit insister sur cela. Le sang versé de Christ était le seul qui était capable de payer tous les péchés de l'humanité. Ce n'est pas possible que le sang d'un homme fasse cela, ou d'un animal. C'était lui-même. En acceptant son sacrifice pour payer nos péchés, nous cherchons enfin de compte à trouver du plaisir, à faire plaisir à Dieu, d'être acceptable à Dieu. Cela nous permet d'envisager de présenter nos corps en sacrifice vivant. Pourquoi est-il l'ultime sacrifice vivant? C'est parce qu'il a donné sa vie pour nous en se soumettant à la mort et il vit aujourd'hui, n'oublions pas. En étant mort pour nous, il vit aujourd'hui. Il est encore vivant, ressuscité à la main droite du Père. Donc, nous nous réjouissons de cet accès. Nous nous réjouissons de cette relation avec Dieu que nous appelons la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Romains chapitre 5, nous allons lire juste quelques parties de Romains ici. Romains chapitre 5 et le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Encore un verset, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Intéressant que le mot homme n'apparaît pas deux fois, mais juste une fois dans ce verset 19. C'est lui qui est le seul. C'est notre frère aîné, Jésus-Christ, qui était le seul qui était capable de faire ça. Donc, nous voyons que notre poursuite continue, mais nous avons accès à cette poursuite même par le sang versé de Jésus-Christ. Si vous continuez à lire dans Romains 6, vous allez voir que l'apôtre Paul nous décrit une libéralité en Christ, mais une lutte qui continue dans la vie chrétienne. Il est mort, Jésus-Christ est mort, pour que nous ayons la possibilité d'être sanctifiés. Nous avons le libre arbitre d'accepter cet appel. Mais sa mort nous permet d'accéder à la vie éternelle par laver nos péchés et par la puissance du Saint-Esprit. Donc maintenant que nous avons compris ce que c'est un sacrifice vivant et comment nos corps peuvent vraiment être acceptables ou agréables à Dieu comme sacrifice vivant, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui? C'est parce que l'Église et le monde a besoin d'être servis. Ils ont besoin d'être servis. Il y a des besoins. Et nous servons Dieu si nous servons les uns les autres. C'est ce que Jésus nous a même dit, que si on a donné à boire, si on a donné à manger, si on a donné des vêtements, c'est pas celui-là que nous avons servi vraiment, mais c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu lui-même que nous servons quand nous nous servons les uns les autres. Avec quoi, frères et sœurs? Comment servons-nous? Nous servons avec tout ce que Dieu nous donne, tout ce que nous avons à offrir. Et c'est ça que Paul voulait dire dans Romains chapitre 12, c'est notre culte raisonnable, notre culte raisonnable. C'est raisonnable à donner 100%. Ce n'est pas raisonnable à donner 20%. C'est raisonnable à tout donner, à donner 100%. Et je dirais que ce 100% représente même le manque d'hypocrisie que nous avons lu dans le psaume 19 de David. Il ne voulait pas que ses paroles soient en décalage avec son cœur. Si nous donnons notre 100%, et on peut donner avec l'extérieur, avec nos membres, mais est-ce que le cœur est bien placé? Le cœur fait partie de notre corps, n'est-ce pas? Mais nous avons quand même ce principe de cœur aussi qui nous décrit comme une personne. Notre cœur, notre fort intérieur, est-il bien placé? Est-il bien placé? Est-ce qu'il sert aussi les autres? Ou est-ce que nous sommes physiquement en train de servir sans être spirituellement en train de servir? Mais cela nous aide à comprendre que même notre corps a besoin d'être utilisé, d'être manié, d'être façonné pour servir. Avez-vous servi avec votre corps? Avez-vous donné avec votre soma, littéralement, comme je vous ai mentionné? Cela indique le soma, les pieds, les mains, la bouche, les yeux, les oreilles. Mais est-ce que nous cherchons des façons de servir avec les choses que nous apprenons, avec nos talents, avec nos capacités, avec ce que nous avons la possibilité de partager les uns avec les autres? Prenons par exemple la bouche. Avez-vous déjà pris le temps, en fin de journée, à méditer les conversations que vous avez eues avec d'autres? Est-ce que c'est possible que vous avez déjà fait cela? Il est quand même peut-être un exercice intéressant de temps en temps de prendre vraiment du temps à méditer les conversations que vous avez eues avec d'autres personnes. Et qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que vous avez entendu? Pourquoi? Parce que nous avons peut-être besoin de nous demander, Dieu trouverait-il agréable les choses que j'ai dites? Est-ce que Dieu trouverait agréable ou acceptable nos propos, nos discussions, notre façon de parler avec les autres, notre attitude dans notre parole, parce que nous pouvons quand même communiquer beaucoup avec notre attitude, avec le sens de notre parole? Combien de temps avons-nous consacré à Dieu pour remercier Dieu tous les jours? Est-ce que nous avons en prière pris du temps vraiment à remercier Dieu pour tout ce que nous avons? C'est une façon de servir à Dieu avec notre bouche. Et bien sûr, nous cherchons à servir les hommes et Dieu en même temps. C'est les deux grands commandements, n'est-ce pas? Mais peut-être nous avons une habitude, ou peut-être pas, mais je sais que dans ma vie, j'ai déjà eu des moments où je passais assez rapidement sur les remerciements et je passais directement à mes demandes. Je passais directement à tout ce que je voudrais, tout ce que je voulais changer, tout ce que je voulais que ça soit différent, que Dieu m'aide avec ceci. Je commence à demander beaucoup à Dieu avant de méditer ce qu'il m'avait déjà donné. Je sais que j'ai déjà fait cela dans ma vie. Et alors, on peut se demander, est-ce que j'ai vraiment, sans simplement répéter les choses, mais est-ce que j'ai vraiment pris du temps à trouver des choses à apprécier parmi les bénédictions que Dieu m'accorde? C'est la même chose chez nous aussi. Chaque jour, on dit peut-être un commentaire, par exemple. Je ne sais pas. Si on entre chez nous chaque jour et on dit à notre femme, « J'aime tes cheveux. » OK, c'est un compliment. Les dames aiment beaucoup que les cheveux soient vraiment bien faits. Et c'est quand même bien. La première fois, vous allez avoir une réponse de sourire. Mais imaginez 100 jours après, Et c'est le seul commentaire que vous avez donné à votre femme. J'aime tes cheveux. Pendant 100 jours, elle va dire quand même, est-ce que t'as pas autre chose à me dire? Mais c'est la même chose dans la prière, frères et sœurs. On dit souvent merci pour cette nourriture. Est-ce qu'il y a d'autres choses à remercier Dieu, hein, pour lesquelles nous pouvons remercier Dieu? Je vous invite à chercher plus loin, ok? À méditer, à chercher plus loin. Trouvons quelque chose de nouveau de temps en temps à ajouter. On n'invente pas, on médite et on va découvrir ce qui a changé, ce que nous avons constaté. Mais imaginez ça pour vous aider à pousser un peu plus dans nos prières, pour servir Dieu, pour remercier Dieu, c'est une chose qui avec qui Dieu prend plaisir. Donc, nous pouvons servir Dieu, et bien sûr, nous pouvons servir les hommes avec la bouche aussi, et c'est ça, méditons, faisons attention avec nos communications. Qu'est-ce que nous disons qui est de valeur, et quel est l'impact de ce que nous allons dire? En disant toutes ces choses-là, est-ce que ça va produire un bon fruit? Ou est-ce que ça apporte du fruit de parler de ces choses? Est-ce que ça apporte du fruit à mentionner certaines choses, à souligner certaines choses? Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Je sais que j'ai beaucoup de mots à dire, mais je dois choisir mes mots. Ou vous auriez des sermons de 5 heures, ok? Mais je choisis mes mots pour des sermons, d'accord? Nous choisissons tous nos mots et nous avons besoin d'être attentifs. Parce que une fois dites, on ne peut pas les remettre dans la bouche. Ils sont sortis. On peut dire, c'est fini, je me suis exprimé, tout va bien maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que moi j'ai des oreilles, je suis désolé, mais vous êtes fini, vous êtes content, mais j'ai entendu ce que vous avez dit. Il y a un impact, n'est-ce pas? Ça résonne. Donc, on peut pas nier ce que nous venons de dire. Et par contre, de l'autre côté, si nous disons un complément à quelqu'un qui est vraiment basé sur le cœur, ça peut rester des années et des années et des années. Vous avez maintenant peut-être la capacité de se souvenir d'un complément que vous avez eu dans la jeunesse qui vous a touché au cœur. Vous avez cette capacité-là. C'est parce que nos paroles peuvent faire du bien aussi. Donc, cherchons à faire du bien avec nos paroles. Et encore plus avec ces enfants qui sont parmi nous. Hein? Ils ont besoin d'être encouragés aussi. Ils ne sont pas dans le monde. Ils ne sont pas comme le monde. Ils sont à part. Ils sont saints. Et ils ont besoin d'être encouragés aussi, de la bonne façon. Donc, nous pouvons servir, bien sûr, avec nos mains. Avec nos mains. Si nous allons servir avec le corps, je pense que nos mains représentent notre travail, notre effort physique, nos mains. Et je sais que certaines savent cuisiner, certaines savent faire de belles choses avec les mains. Certaines peuvent tourner du bois avec les mains, pour faire des choses magnifiques, hein? Des meubles, des tables. Certaines peuvent faire vraiment des choses très intéressantes avec leurs compétences et avec leurs mains. Donc, nous avons bien sûr besoin à méditer. Est-ce que je sers Dieu avec mes mains, avec mon travail, avec ce que j'ai appris à faire? Est-ce que je peux servir quelqu'un avec mes compétences? Ecclésiaste, chapitre 9, nous dit ceci. Ecclésiaste, chapitre 9, un verset très connu, mais on a besoin quand même d'insister là-dessus aujourd'hui parce que nous parlons d'un sacrifice vivant, un sacrifice, quelque chose qui est censé être agréable à Dieu. Ecclésiaste, chapitre 9, et le verset 10, Vous l'avez peut-être déjà en tête, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc, on cherche à servir avec la force qui reste. Hein? La force qui reste. Et ça, c'est intéressant parce que des fois, on peut dire, je servirai et puis on va donner le restant à Dieu. Mais si on place notre étude biblique quand on est très fatigué la soirée et si on s'endort sur la Bible sans vraiment lire, c'est pas garder la meilleure part pour l'Éternel, n'est-ce pas? Mais si avec notre énergie et un bon café tôt le matin, on puise dans la Bible, on investit là-dedans. C'est la même chose avec le service, avec notre service. Est-ce que je garde un petit peu de côté pour servir l'Église? Et si besoin, de temps en temps, je peux ajouter ci ou je peux ajouter ça? Ou est-ce que je me dédie à la tâche pour dire, je voudrais faire quelque chose régulier, je voudrais faire quelque chose qui apporte du bien avec mon énergie, avec qui va peut-être m'épuiser de temps en temps. Mais je voudrais le faire et je voudrais m'engager à le faire. Ça, il y a une grande différence entre ça et, si besoin, de temps en temps, on peut me demander d'aider. Je pense que c'est un certain zèle que nous devons remuer de temps en temps pour s'assurer que nous sommes bien placés pour servir Dieu et l'Église, nos frères et sœurs de l'Église, avec nos mains. J'ai beaucoup d'histoires, beaucoup de récits personnels de moments où j'ai été servi par nos membres dans le monde entier, dans plusieurs endroits que nous avons vécu. Plusieurs ont déjà servi avec leurs mains en m'aidant avec un déménagement. Et je vous remercie beaucoup. C'est servir quelqu'un avec vos mains. Nous avons de bons exemples, mais ce serment, c'est pour nous rappeler, pour nous remuer là-dessus. Donc, servons Dieu avec notre tête aussi, avec notre tête. 2 Corinthiens chapitre 10. N'est-ce pas dans Jérémie où il dit « toute la tête est malade » en termes d'Israël. Mais c'est quand même l'idée que si la tête n'est pas bien, le corps risque de tomber. Et certaines vivent des étourdissements quand la tête ne va pas. Hein? La tête est bien placée. Ma mère me disait quand j'étais jeune que si ma tête n'était pas attachée, je le perdrais. Et heureusement, ça a resté attaché jusqu'à présent. Donc, je ne l'ai pas perdu. Mais 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 5, 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 5, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, la connaissance, le savoir, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, il y a une bataille, il y a une lutte qui se passe dans la tête pour rester concentré sur les choses que Dieu nous révèle au lieu d'être distrait et découragé par les mensonges de ce monde et les tentations aussi. Mais les pensées peuvent être très puissantes. Notre façon de penser peut se renforcer aussi. Nous pouvons penser quelque chose une fois et ça n'a pas d'impact. Mais si on commence à penser la même chose mauvaise tous les jours, ça peut avoir un impact vraiment négatif avec des années. Et on peut constater que on peut devenir un petit peu poussé ou possédé par cette pensée. Et ça peut nous impacter de façon vraiment négative. Mais si on fait notre rôle d'aller auprès de Dieu pour lui demander de nous aider à faire mieux, à ne plus penser ces choses négatives, alors il peut nous donner d'autres choses à méditer, d'autres choses qui sont meilleures. Nous ne devons pas rester concentrés sur le mal, mais nous cherchons le bien. Donc, nous pouvons servir, bien sûr, à plusieurs façons. Et j'ai déjà mentionné le cœur, mais je voudrais juste insister que nous pouvons servir Dieu avec tout notre cœur. Important, tout notre cœur est impliqué dans le service de Dieu. Je pense que c'est quand même très important de ne pas avoir un cœur divisé quand il s'agit du service de notre service envers nos frères, de notre service envers Dieu. Si notre cœur est divisé, ça peut devenir endurci, ça peut devenir vraiment malsain pour nous personnellement et pour ceux que nous sommes avec qui nous sommes en contact. Donc, frères, nous nous réunissons chaque sabbat pour honorer et pour adorer Dieu, pour lui obéir, pour suivre ses instructions et pour apprendre à être mieux et pour faire mieux d'après ses instructions et même pour être en fraternisation avec nos frères. Donc, alors que nous envisageons de servir Dieu et son Église, souvenons-nous qu'il voudrait travailler à travers nous. Il nous a donné des talents, il nous a donné des capacités et il nous donne ces choses pour qu'on les mette en pratique. Pas pour les enterrer, pour les garder pour plus tard, mais pour agir aujourd'hui. Donc, nous devons quand même retenir ces choses pour pouvoir mieux servir, pour être un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et donc, c'est quand même un avertissement de Paul, mais c'est aussi une exhortation très, très intime, parce qu'il nous parle comme frères. Et Paul parle de la manière normale que les chrétiens doivent chercher à vivre devant Dieu et devant le corps de Christ, l'Église. Donc, nous sommes des sacrifices vivants pour Dieu. Nous sommes des sacrifices vivants pour Dieu. Et c'est une réponse normale. C'est acceptable, c'est agréable, mais c'est notre culte raisonnable. Comment pouvons-nous présenter notre corps comme des sacrifices vivants? En pratiquant la justice, en obéissant à Dieu et en continuant à répondre à son appel et ses instructions dans la vérité. Si l'Esprit de Dieu est en nous, nous devons agir en conséquence, de chercher l'inspiration et certainement de chercher à se séparer, de rester saint, de rester séparé des influences de ce monde autour de nous. Donc, pour conclure aujourd'hui, l'exhortation de Paul, exprimée d'une manière vraiment unique, est toujours une source d'inspiration pour nous. Sur la base de la miséricorde que Dieu nous a témoignée, nous devons répondre en présentant notre corps comme un sacrifice vivant.